Et c'est le temps d'aller rejoindre Monique Kirouac, qui est au bout du fil. Allô, Monique.
Bonjour, Denis. Rebonjour.
Rebonjour, oui. Puis on s'est passé plus tôt aujourd'hui parce que je ne l'ai pas mentionné, mais Yvan Deslauriers est en vacances. Alors, on a décidé de te faire passer plus tôt que plus tard.
Ah, ben, hein? C'est très gentil, j'apprécie.
Alors, tu seras le plat principal et non pas le dessert, mais c'est bon dans les deux cas.
Ah, un petit peu des deux, en fait. Hein?
Ben oui. Monique, on va parler de plastique.
Oui, c'est ça. Alors, comme je vous disais en introduction, il s'agit d'une enquête sur la plus grande pollution de tous les temps, en fait, qui a été publiée dans la revue Epsilon. Et l'article que je vous présente a été rédigé par Muriel Valin. Alors, on est face au plastique, face à une pollution sans équivalent dans l'histoire. On est face aux menaces pour la santé des humains et des écosystèmes. On est face, Denis, à une production mondiale qui ne cesse d'exploser. Pour vous donner une petite idée, où est-ce qu'on trouve le plastique, là? Quelques éléments seulement. Il y a 10% des tissus qui sont composés de plastique, donc les vêtements que l'on porte. Acrylique, élastane, polyester. Il y a un usage massif dans les emballages. C'est 143 millions de tonnes de sacs, films alimentaires, flacons en polyéthylène, bouteilles d'eau, et j'en passe. Tous les objets du quotidien, ils représentent 10%. Près de 50 millions de tonnes de plastique sont transformées en jouets, en meubles, etc. Le bâtiment, c'est le deuxième secteur le plus gourmand, et sans parler, bien sûr, des 60 millions de tonnes que l'on retrouve dans les transports. Il est partout, le plastique, dans nos véhicules. Donc, du 29 mai au 2 juin dernier, la France a accueilli à Paris plus de 2000 personnes qui représentent plus de 150 pays et des membres de la société civile. L'objectif, c'était de négocier quelque chose, en fait, de définir un cadre juridique contraignant pour mettre fin aux dégâts de cette invention qui n'en finit plus de changer la face du monde. On est passé, Denis, à une production de 2 millions de tonnes de plastique en 1950. Aujourd'hui, on est rendu à 460 millions. Et on dit qu'en 2060, ça pourrait dépasser 1,2 milliard. C'est donc une vertigineuse catastrophe écologique en perspective. Alors, il faut faire quelque chose. En 2015, les calculs de Jenna Jambeck, qui avait déjà marqué les esprits, c'est une ingénieure environnementale de l'Université de Géorgie aux États-Unis, elle estimait que 8 millions de tonnes de plastique étaient aussi rejetées chaque année dans l'océan. On le sait, hein? Soit l'équivalent d'un camion Ben par minute. Les mesures effectuées depuis dans les sols, dans les eaux, dans les glaces, chez le vivant, n'ont fait que confirmer la pollution en cours. En 2022, il y a des membres de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui ont convaincu 175 pays d'adopter d'ici à la fin 2024, un instrument international juridiquement contraignant, je souligne contraignant, sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Il y a donc un comité intergouvernemental de négociation qui a été mis en place et une première session de discussion a démarré à Punta del Este en Uruguay en novembre dernier. Alors, tout le monde s'est donné rendez-vous à Paris ce 29 mai pour continuer à élaborer un traité international contre la pollution plastique, ce qui est des plus positifs, vous en conviendrez. Alors qu'en 2016, les premiers échanges autour du plastique au niveau international étaient essentiellement concentrés sur les emballages dans les océans, aujourd'hui, on a changé de paradigme. Ce sont tous les plastiques, tout le long de leur cycle de vie, qui sont dans le collimateur, et c'est une très bonne nouvelle. Mais quand même, il faut rester prudent. À Punta del Este, l'atmosphère était optimiste, il y a eu de bons progrès, mais il y a aussi, on le devine, des blocages sur les questions de procédure. Il faut dire que les enjeux économiques sont énormes. Le plastique représente 1 200 milliards de dollars par an, selon l'OCDE, soit 5 % du commerce des marchandises.
Quand même.
C'est pas banal, hein?
Non.
Alors, dès le début des discussions en Uruguay, 60 pays ont endossé un rôle moteur à travers une coalition auto-baptisée Haute Ambition. et c'est tout à fait juste comme appellation. En chef de file, il y a le Rwanda, qui semble-t-il est l'un des pays les plus avancés sur le sujet, avec la Norvège, suivi par les pays de l'Union européenne, et ensuite le Maroc et le Pérou, ouais. Mais aussi des États insulaires du Pacifique, parce qu'il faut le dire, un grand nombre des membres de cette coalition font partie des premières victimes de la pollution plastique et n'ont simplement pas les moyens de s'en protéger.
Mais imaginez, là, dans certaines îles, là, qu'est-ce qu'on fait avec le plastique? On va quand même pas jeter ça dans l'eau. Et anecdotiquement, j'ai passé beaucoup de temps au Rwanda pour toutes sortes de raisons à cause de mon travail précédent où je suis allé faire des reportages là-bas. Et je me rappelle même déjà, c'était en 2011 que j'ai... Non, j'étais là en 2008. J'étais là en 2011 et en 2012 aussi. Mm-hmm. Et je me rappelle en 2008, on interdisait ce qu'eux appellent des poches en plastique. Et j'en avais avec moi, parce que quand on voyage, on emballe plein de choses.
Oui,
m'avait signalé de garder ça avec moi et de ne pas laisser ça au Rwanda. Il y avait même des amendes qui venaient avec ça.
Confirmez ce qui est dit dans cet article.
Ouais.
Donc, face à eux, il y a un deuxième groupe de pays, au premier rang desquels les États-Unis, suivent l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, la Russie et l'Inde, qui ne tirent pas, on le devine, dans le même sens.
Mmh.
Et entre les deux, qui est-ce qu'on retrouve? Ben, la Chine. Et elle n'a pas vraiment dévoilé ses cartes. Pour l'instant, elle écoute, sans véritablement révéler sa position. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations? Ben, il y aura sûrement des discussions autour de la production et même de l'interdiction de certains polymères parmi les plus toxiques, dont les styrènes, les polystyrènes, qui font partie des plastiques les plus souvent cités par les experts interrogés. Les fameux objets à usage unique pourraient aussi se retrouver dans la sellette dans les pays où ils sont encore autorisés. Dans ces réunions, l'industrie, notamment celle des combustibles fossiles, des produits pétrochimiques et des polymères, ben, cette industrie, on le devine, elle veut protéger ses investissements. Elle concentre plutôt ses efforts sur l'aval, comme la gestion des déchets plastiques, tandis que les autres acteurs considèrent les mesures en amont comme essentielles. Parce qu'on le sait, hein, la gestion des déchets, on repassera, entre autres, au Canada.
Ouais.
Alors, les avancées dépendront en partie de la façon dont les pays prendront leurs décisions. Mais la volonté politique s'affirme avec de plus en plus de force. Le 16 avril dernier, les ministres du Climat, de l'Énergie et de l'Environnement du G7 se sont engagés à mettre fin à la pollution plastique avec l'ambition de réduire à zéro toute pollution supplémentaire d'ici 2040. Peut-être, Denis, vous direz-vous, est-ce réaliste ou irréaliste 2040? Mais
c'est peut-être, ça a l'air vraiment, on peut se le dire, c'est peut-être pas réaliste, mais là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Hein?
Exactement.
Il va falloir qu'il se passe quelque chose. On peut pas laisser traîner comme ça la pollution de notre environnement. Puis on voit les résultats. Alors, des fois, ça a l'air pas réaliste, mais avons-nous le choix?
Je pense qu'on n'a pas le choix. Et on nous dit que le traité, c'est une occasion à ne pas manquer pour élaborer un contrat inaugural qui rassemble tous les acteurs, les élus, le secteur privé, associatif, scientifique, et ceci hors d'atteindre des conflits d'intérêts avec l'industrie, ce qui est peut-être irréaliste. Bon. Ce traité aura l'avantage d'être juridiquement contraignant, ce qui laisse espérer de vrais effets, contrairement à l'accord de Paris sur le climat signé en 2015, qui repose essentiellement sur des actions volontaires. Beaucoup d'experts, d'ailleurs, citent en référence le protocole de Montréal. Ce protocole a été signé en 1987 et mis en vigueur en 1989. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce protocole de Montréal? Ben, il a permis de résorber le trou dans la couche d'ozone. On l'a oublié, ça.
Ouais.
Donc, il y a un peu d'espoir. La pollution par les plastiques est étroitement liée aux problèmes environnementaux, du changement climatique et de la perte de biodiversité. On ne peut pas considérer ces priorités comme concurrentes. Il faut des actions visant à résoudre l'une et en prenant compte des impacts sur l'autre. La communauté scientifique, elle tente toujours de prendre la mesure de la menace, ce qui fait que Elle doit comprendre les causes, les impacts, les solutions pour réduire la pollution. Et elle met autour de la table ingénieurs, climatologues, anthropologues, médecins, économistes. Donc, il y a une recherche interdisciplinaire qui est essentielle pour trouver des solutions à ce défi.
Oui, tout un défi. Il faut le dire quand même, le plastique avait et a toujours des avantages, notamment là dans les traitements, les soins de santé, parce qu'on peut produire des plastiques tout à fait sans aucun microbe, sans aucun... Alors, c'est quand même un produit qui peut être très propre. Et aussi pour le transport, imaginez une caisse de bouteilles de bière, ou peut-être non, la bière, peut-être pas, mais une caisse de bouteilles de Coca-Cola en verre versus une caisse de bouteilles de Coca-Cola en plastique, je vous assure que c'est moins lourd. Alors, c'est sûr qu'il y a des avantages et des désavantages, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a tellement de plastique qui se retrouve dans l'environnement, n'est-ce pas, Monique?
Tout à fait. Puis au retour, je pourrais vous parler d'une série élaborée par Evelyne Charruet qui s'appelait « Zéro déchet ».
Ah, on pourra en parler de tout ça. Monique Kirouac, alors on parlait de plastique. Hein? Le plastique a de belles fonctions, c'est quand même un bon matériau, mais c'est aussi un matériau compliqué à recycler ou à réutiliser ou
quand il faut s'en défaire. Difficilement recyclable, en fait, c'est ça le problème. Mais je vous inviterai, si vous avez le goût, bien sûr, il y a Evelyne Charruet qui est journaliste à Radio-Canada. Oui. Qui a fait une expérience pendant un an. En fait, elle a tenté l'expérience, elle appelait ça zéro déchet, mais c'était zéro plastique plutôt. Alors, elle et son mari et ses deux enfants en très bas âge, là, je pense que c'était 4 ans et 6 ans, ben, ils ont essayé de vivre sans plastique. Ils ont tout sorti ce qui était de plastique, en plastique de leur maison. Pouvez-vous imaginer ce que ça veut dire?
Ça peut être très compliqué. Hein?
C'est très compliqué. Et ben il y a des choses qui ne réussissent. Alors imaginez la rentrée scolaire, les fêtes d'enfants, les cadeaux, les jouets des enfants, brosse à dents, lunettes, etc. Bon, les lunettes, elle n'a pas cédé là-dessus, là, parce que c'est pratiquement impossible. C'est assez intéressant de voir comment les enfants réagissent et ils ont créé même un mur avec les objets qui étaient impossibles à éliminer de l'environnement. Et j'ai trouvé, elle a fait aussi un truc sur YouTube, et ça s'appelle « Ma vie sans plastique ». Et là, elle nous donne en fait des trucs pour essayer d'éliminer le plus de plastique possible dans notre vie. Si ce n'est que d'utiliser des contenants en verre, pour les enfants, des petites boîtes en métal, qui sont en fait plus durables au fil du temps. Alors, c'est positif en fait comme proposition. Donc, voilà, si vous avez le goût d'en savoir plus sur une vie sans plastique. Parce qu'on en a partout, hein, en Arctique, en Antarctique, dans l'océan, dans le lait maternel, et j'en passe.
Ben quand on se lave, on se lave souvent avec des savons qui contiennent des polymères de plastique aussi à l'intérieur.
Oui, hein? Tout ouais. À fait. Le maquillage en contient. Et bon, vous parliez des sacs, on ne devrait pas les jeter aux 80. S'ils s'envolent, on devrait au moins les récupérer. Hein. On a vu en Inde, les vaches, ils ont des sacs dans leur estomac.
Oui, mais ne serait-ce que pour nettoyer l'environnement. Moi, dans mon quartier, je suis une personne qui habite dans ce qu'on appelle un rez-de-jardin. Alors, quand les bacs de recyclage sont sortis, ben, s'ils sont mal fermés, ou si quelqu'un se promène puis va chercher des choses, ou si les employés qui ramassent le recyclage le vite pas comme il faut, ben les sacs de plastique s'envolent. Ils se retrouvent où? Devant ma porte.
Ah, mon Dieu! Oui. Alors, comme je le disais aussi, ce matin, par hasard, dans la Presse Plus, il y a Sylvain Charlebois, qui est professeur, directeur principal à l'Université Dalhousie, qui nous offre toujours des chroniques sur l'agroalimentaire. Bien, il nous dit que Ottawa a dévoilé une ambitieuse initiative pour réduire la pollution plastique dans la vente au détail d'épicerie. Alors, ce qui n'est pas simple, on le devine bien, vous avez parlé d'hygiène ou de poids, des choses, c'est sûr que le plastique peut aider à ça, mais c'est un avis de planification de la prévention de la pollution, P2, entre parenthèses, nous dit-on, cible spécifiquement les emballages plastiques en contact direct avec les produits alimentaires. Bon, dans les documentaires de Mme Charuet, ben, on peut voir que si on va dans les boutiques zéro déchet ou même quand on va chez le boucher, si on demande d'emballer dans du papier au lieu de l'emballer dans un polystyrène, ben, ça évite peut-être certains déchets qui ne seront pas recyclables.
Je vais te sortir quelque chose d'autre, mais tu sais aussi que les emballages de papier posent problème. Alors, c'est vraiment de réduire les emballages en général. Moi, petite confidence, j'ai des sacs pour aller chercher des fruits et légumes.
Oui.
Ce sont des sacs réutilisables, qui sont vraiment faits pour ça. Ils sont lavables.
Oui.
Alors, les fraises, je sais, des fois, les fraises, ça vient tout sale, mais c'est pas grave, ça se lave. Et au moins, ça fait un petit peu moins de cochonnerie dans l'environnement. Ben après ça, je me dis à chaque fois, je le lave dans le savon. Il y a plein de trucs qui sont pas bons pour l'environnement. On n'en finit plus, hein?
Oui, mais il y a des savons en pâte,
oui, c'est ça.
Que nous décrit Mme Charuet. Puis on peut utiliser une brosse qui est faite à partir de bois et de fibres animales, par exemple, pour nettoyer notre vaisselle. Donc, il y a toujours moyen, mais bon. Faut prendre de nouvelles habitudes.
Tout à fait. D'autres nouvelles, parce que là, je vois que je te fais étirer le temps, puis je me rends compte que, parce que ça m'intéresse tellement, ce dont tu parles, je me rends compte que j'interviens un peu trop, là.
Non, mais c'est bien, Denis, si on a le temps. Alors, est-ce qu'un régime vegan est moins polluant qu'un régime carnivore?
Ben là, tu sais que tu parles à quelqu'un qui a un régime vegan depuis, écoute, ça fait 5 ans maintenant que je ne mange plus de produits animaliers, oui.
Alors, la science est unanime, Denis?
Ah, oui. Ah, ben ça, je suis content de savoir ça.
Alors, en pourcentage, combien la assiette des végétaliens émet-elle de gaz à effet de serre en moins par rapport à l'assiette de ceux qui consomment des protéines animales?
On en avait parlé dans une autre chronique, je me rappelle pas trop, mais j'avais fait la blague en disant, mais est-ce qu'on compte là-dedans quand la nourriture entre dans mon corps? Et puis, parfois, ben, il y a des choses qui ressortent et qui...
Les flatulences, là?
Oui, voilà, j'osais pas utiliser le mot.
Alors, les gens qui mangent 100 grammes et plus de viande par jour ont un bilan carbone de 75 % supérieur à celui des végétaliens. Donc, vous avez pris une bonne décision, Denis, en passant en devenant végétalien.
Donc, mes flatulences végétaliennes sont moins graves.
Ah ben, les animaux en font pas mal plus que nous, je pense.
Tout à fait.
Alors, c'est ce que nous montre une étude qui a été menée auprès de 55 000 personnes au Royaume-Uni. Mm-hmm. Et l'étude précise qu'une alimentation vegan, monopolise moins de ressources. Elle nécessite en moyenne 54 % moins d'eau et 75 % moins de superficie de terre pour produire les aliments consommés.
Bon, ben, c'est bon à savoir.
C'est bon à savoir. Est-ce que je continue?
Oui, on y va avec moins de pesticides, plus de pollinisateurs.
Oui, alors les pollinisateurs sauvages sont 2 fois plus nombreux dans les champs où les insecticides ne sont appliqués qu'en cas de besoin. Les abeilles mellifères domestiques qui butinent survivent aussi en plus grand nombre à l'hiver dans ce type d'espace, de champs de culture. C'est les conclusions d'une étude qui a été menée durant 3 ans dans des fermes américaines. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à ces résultats? Bien, les chercheurs ont étudié les effets des néonicotinoïdes, ces fameux pesticides que l'on qualifie de tueurs d'abeilles. Alors, ils ont comparé le nombre de pollinisateurs près des champs où ces produits étaient utilisés à grande échelle et près de ceux où ils étaient appliqués seulement lorsque le nombre d'insectes ravageurs était suffisamment élevé pour justifier leur usage. Donc, encore une fois, un effet positif de cette réduction, si ce n'est pas élimination, de ces pesticides tueurs d'abeilles.
On a une petite minute pour une capsule linguistique.
Alors, la réingénierie, est-ce que c'est plus français que le réengineering?
Ben, j'imagine que nous, on dit réingénierie au Québec, mais en France, on va certainement dire le réengineering.
Alors, les deux termes sont des anglicismes à éviter, Denis. Ah,
Bon, d'accord.
Zéro.
Zéro.
Vous êtes recalé.
On retourne à l'arrière de la classe, oui. Oui, le bonnet d'âne.
Alors, il n'y a vraiment pas de logique à parler de réingénierie, puisqu'il n'y a pas eu d'ingénierie à l'origine. Il faut se rappeler que l'ingénierie est un processus complexe d'études et de conception technique qui n'a rien à voir avec les structures administratives d'une organisation. Il faut plutôt utiliser le terme « reconfiguration des processus » pour désigner une démarche de remise en question et de redéfinition en profondeur des processus d'une organisation. En contexte, le mot « reconfiguration » peut donc suffire. La reconfiguration vise à restructurer l'organisation pour la rendre plus efficace tout en réduisant les coûts. Et restructuration et réorganisation sont tout à fait ne sont pas en fait des synonymes de reconfiguration. Et la restructuration et la réorganisation sont des conséquences de la reconfiguration. Donc, oubliez réingénierie et même re-engineering que probablement, comme vous l'avez dit, les Français utilisent.
Est-ce que je suis méchant? Je les aime, les amis français, come on. Mais en fait, comment est-ce qu'on dit ça? Restructuration restructuration, en fait...
Reconfiguration.
Et reconfiguration, moi, je vois ça plutôt comme des mises à pied.
Ah!
Allez, fait, oui, vas-y, vas-y, un petit
non, mais ça va, Denis.
Okay.
On se reparle la semaine prochaine.
Ah oui, avec plaisir.
Allez, au revoir.
Au revoir, Monique.